RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver trois habitués de l'émission. Julien Licheron, chercheur au LISER, Pierre Clément, directeur de Nexvia et Soufiane Saadi, CEO du groupe Atome. Bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour.
On se retrouve au lendemain de la publication du logement en chiffres 2025. On va parler prix, loyer, activité, mais on va également se pencher sur certaines spécificités du marché luxembourgeois. Parlons d'abord de l'évolution des prix, car on a pu le voir hier, certains médias ont insisté sur l'augmentation des prix quand il y avait sans doute d'autres tendances à souligner. Julien, je me tourne vers vous.
Alors effectivement, si on regarde les prix des logements, on est quand même sur une stabilité quasi parfaite. Sur un an, on est à plus 0,1% pour l'indice agrégé qui comprend à la fois les appartements existants, les maisons anciennes et les appartements neufs. Donc on est sur une forme de stabilité qui se confirme. On a en réalité beaucoup de volatilité sur cette série, mais de volatilité trimestrielle. Et notamment, on a eu une augmentation assez forte des prix lié à la hausse de l'activité au deuxième trimestre 2025. Ça a eu un effet transitoire qui s'est progressivement dissipé, si bien qu'en fin d'année, là, on a quand même une stabilisation quasi parfaite. Voilà, moi, je n'insisterai pas énormément sur ces évolutions de prix qui sont relativement, qui sont pas forcément évidentes à analyser trimestre par trimestre. La tendance globale, c'est quand même la stabilité.
Mmh. Alors de mon côté, ce qui m'a frappé, c'est la chute du nombre de transactions, en particulier dans la VEFA. On a moins 62,4% par rapport à l'année 2024. L'ancien n'est pas épargné non plus, même si on dit qu'il se maintient, moins 25%. Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce n'est pas une surprise ?
Alors ce n'est pas une surprise parce que le point de comparaison que l'on utilise, c'est le quatrième trimestre 2024, qui était lui-même très particulier puisqu'il était boosté par des mesures fiscales qui allaient expirer au 1er janvier 2025. Donc ce point de comparaison n'est pas forcément très pertinent ou biaise un peu, disons, le panorama qu'on peut dresser. Pour moi, si on analyse de façon un petit peu plus, avec un peu plus de recul, en fait, il y a deux tendances qui sont très différentes. D'un côté, on a l'existant, sur lequel on a des niveaux d'activité qui restent corrects. Pour donner un chiffre précis sur les appartements existants, on a 996 ventes ce trimestre. Un trimestre normal, standard, c'est entre 1000 et 1200 transactions. Vous voyez qu'on est dans la fourchette basse, mais on reste dans la fourchette de ce qu'on va appeler normal. Mmh. En revanche, sur le neuf, voilà, on a 149 ventes ce trimestre, ce qui confirme ce qu'on observait sur le trimestre précédent. On est quand même très loin des standards qui sont plutôt de l'ordre de 600 à 800 transactions. Donc on est quasiment 4 fois en dessous d'un trimestre normal pour la vente en état futur d'achèvement d'appartements. C'est là où, évidemment, on a le point de fragilité du marché. Ce n'est pas une nouveauté, on en a déjà beaucoup parlé ici, mais le marché du neuf a du mal à repartir.
Alors, il faut aussi souligner le fait qu'en fin d'année, ça on a pu le confirmer auprès de plusieurs sources officielles, les chiffres qui existaient, le peu de chiffres, le peu de ventes qui existaient, l'ont été surtout grâce au programme de rachat de l'État.
Exactement.
Alors, du côté du foncier, il y a des choses à relever. S'il y a également une baisse de l'activité, je crois que c'est moins 11,3%, le volume financier, lui, a augmenté. Alors, comment est-ce qu'on explique ça du côté de l'Observatoire de l'Habitat ?
Alors là, on a un très fort problème qui est les effets de composition. On a des très, très grandes différences de prix, évidemment, sur le territoire, que l'on achète à Luxembourgville ou que l'on achète dans le nord du pays. On va avoir des différentiels de prix qui sont énormes et qui sont encore plus importants que ce qu'on a pour les appartements ou pour les maisons. Ce qui fait que si un trimestre, on avait des ventes exclusivement localisées à Vils, et que le trimestre suivant, on a des ventes exclusivement à Luxembourg, on aurait évidemment une hausse du tarif moyen, mais qui ne s'expliquera pas nécessairement par la valorisation, qui s'expliquera simplement par la localisation des transactions. C'est valable aussi pour la taille, la surface des terrains vendus, qui peut aussi beaucoup changer d'un trimestre à l'autre. Donc comparer les évolutions des volumes d'activité avec l'évolution du nombre de transactions, ça n'est pas nécessairement un indicateur très pertinent, parce que ça dépend vraiment d'où sont localisés les terrains vendus et quelle est leur surface.
Et vous avez eu donc ces actes de vente sous les yeux, c'est logiquement des ventes qui se sont conclues dans le centre du pays.
Exactement, ce sont des ventes qui se sont recentrées, mais pour être tout à fait précis, c'est surtout qu'en début d'année 2025, on a eu beaucoup de ventes dans des localisations plus périphériques. Donc le recentrage de fin d'année nous ramène sur des localisations plus standards.
Alors parlons un peu du marché de la location qu'on oublie parfois un peu dans cette émission. Pourtant, il est crucial au développement économique du pays puisqu'il loge une grande partie des nouveaux arrivants sur le marché du travail luxembourgeois. Une augmentation de 3% des loyers, est-ce que c'est choquant à vos yeux ?
Alors si on regarde froidement l'inflation sur les prix à la consommation, on est sur quelque chose de très similaire puisqu'on est à plus 2,9% pour ce qui est de l'inflation sur les 12 derniers mois. Donc on est sur des standards qui sont là. Ce qu'il faut préciser, deux choses. Quand on parle des évolutions des loyers à des appartements, ce sont en fait des loyers annoncés. Donc ce sont des loyers pour des nouveaux contrats de location. Ce sont ces contrats-là sur lesquels on a ce chiffre de 3%.
Donc, pourquoi c'est important ?
C'est important parce qu'évidemment, ce n'est pas le ressenti de tous les locataires. La plupart des locataires sont quand même sur un même contrat de bail depuis quelques mois ou quelques années. Et pour eux, l'augmentation est nécessairement moins importante. Pour donner un chiffre, le Statec montre que l'évolution sur les 12 derniers mois, pour les encours de bail, c'est plus 1,4%. Mmh. Donc là, c'est quand même assez nettement inférieur à l'inflation.
Et aussi, peut-être rajouter à cela, ce n'est pas choquant dans le sens aussi où il y a quand même une forte demande sur la location. Donc par exemple, nous au niveau des retours qu'on peut voir sur Atome, c'est que clairement les annonces pour des biens en location sont celles qui attirent le plus de demandes et le plus de retours pour les propriétaires ou les agences qui les mettent sur Atome. Donc une demande qui reste structurellement très très forte. Et donc avoir ce niveau de 3% proche de l'inflation n'est pas choquant dans ce contexte avec une demande structurelle très élevée.
Alors c'est un petit peu logique aussi hein, qu'à partir du moment où on ne peut plus vraiment acheter, ou du moins du côté de la VFA, c'est un peu une situation d'impasse, que la demande se reporte sur le marché de la location. Donc ce que vous dites, que c'est que 3%, c'est pas choquant.
On ne dit pas que c'est que 3%.
Alors, par rapport au contexte,
ça peut s'expliquer, effectivement. Voilà. Ça peut s'expliquer par un report d'une partie de la demande. Ça s'explique par le niveau d'inflation qui est un peu plus élevé qu'il ne l'était il y a quelques années. Et puis ça s'explique par des tendances lourdes. Hein. Finalement, c'est des chiffres qui sont tout à fait similaires à l'augmentation tendancielle qu'on a depuis 2010, où on est à peu près à entre 3 et 3,5% d'augmentation annuelle sur les loyers annoncés. C'est pas choquant, mais ça appelle quand même à une réflexion sur les conséquences que ça peut avoir pour les locataires, parce que pour beaucoup d'entre eux, évidemment, les revenus n'ont pas augmenté de 3% par an sur la période 2010-2025. Donc vraiment, voilà, là, il y a une interrogation sur la capacité, c'est ce qu'on montre, nous, dans les travaux de l'Observatoire de l'Habitat, c'est qu'on a quand même tendanciellement aussi une augmentation du taux d'effort des locataires, c'est-à-dire de la part de leurs revenus qu'ils consacrent aux dépenses de logement. Et cette part-là, elle n'est pas extensible à l'infini, évidemment. Mmh. On a un certain nombre de locataires pour lesquels on a peut-être 40 à 50% des revenus qui partent dans le loyer plus charge. Ça interpelle, évidemment.
Mmh. À titre juste, par exemple, d'information sur une maison, moyenne nationale, on est à plus de 3 200 euros en termes de loyer. Pour un appartement, moyenne nationale, quasiment 1 900 euros. On est à 1 869 euros sur le premier trimestre 2026. Donc ça reste quand même des niveaux importants pour quelqu'un qui veut se loger au Luxembourg, par exemple. Mais ça reste quand même assez lourd sur le budget.
Mais en effet, la distinction qu'il faut bien faire, c'est que cela touche malheureusement les nouveaux entrants dans le marché, puisque ceux qui sont là depuis des années, comme l'accès à la propriété d'ailleurs, ont pu souvent profiter de prix beaucoup plus réduits. Et souvent d'ailleurs, les bailleurs historiques n'augmentent même pas au montant qu'ils le pourraient légalement, les baux d'année en année. Et donc vous avez aussi beaucoup de personnes qui bénéficient de conditions, on va dire, plus supportables. Mais néanmoins, le problème est bien pour les gens qu'on veut faire venir au Luxembourg aujourd'hui.
Mmh. Oui, donc ça confirme toutes les discussions qu'on a eues sur l'attractivité du Luxembourg qui est menacée hein, par ces augmentations sur le marché de la location. Parce qu'on parle beaucoup des prix du marché immobilier, de la VFA, etc. Mais effectivement, généralement, les gens, quand ils arrivent, ils louent peut-être 1 ou 2 ans. D'ailleurs, de votre côté, chez Nexia, vous avez vu plus de difficultés à loger des gens en location ou pas du tout?
On a en fait un marché qui est tel qu'il est, donc on n'a pas plus de difficulté, je dirais, en tant qu'agence à louer, mais il est vrai que beaucoup de personnes ne peuvent plus louer au Luxembourg et continuent à aller loger hors de nos frontières nationales pour bénéficier d'un loyer beaucoup plus raisonnable. Mais je dirais pas que aujourd'hui, les gens qui peuvent être à Luxembourg ont les conditions financières néanmoins pour louer. Certes, le taux d'effort est très élevé, mais les locataires du Luxembourg ne représentent aussi aujourd'hui qu'une proportion des travailleurs luxembourgeois. Et ça, c'est la réalité.
Mmh. Avec tout ça, on n'a pas encore parlé de l'état actuel du marché immobilier. Je sais qu'on va parler encore un peu plus de logements en chiffres 2025, mais voilà, on sait qu'il y a ce décalage qui est au moins de 3 mois. D'ailleurs, vous avez dédié un focus à ça. Entre les moyennes donc exprimées par le logement en chiffres et la réalité sur le terrain, quels sont les échos que vous avez actuellement? L'ancien se maintient, le neuf s'écroule, comment ça se passe?
Alors, je pense que sur l'ancien, je peux évidemment vous donner des données de terrain de chez Nexia. En tout cas, on est vraiment dans une continuité actuellement sur le premier trimestre 2026 de ce qui s'est passé sur le dernier trimestre 2025, ce qui est une excellente nouvelle puisqu'il n'y a plus les mesures fiscales temporaires qui ont pu avoir leurs effets en tout cas sur l'année 2025. On est toujours à des prix qui sont stabilisés ou qui ont repris légèrement, même à Luxembourgville, une légère reprise dans les chiffres qu'on voit. Ces chiffres qu'on a de notre côté sur le transactionnel en agence, mais aussi des données dont on dispose via nos partenariats bancaires sur des transactions actuelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ce que ça veut dire, c'est que, en tout cas, le marché de l'existant, et encore plus celui des appartements, est à son bon équilibre maintenant depuis plus de 18 mois, et que c'est un marché, en tout cas, solide à ce prix-là. Donc ça, c'est vraiment la situation actuelle de l'existant, et je pense que c'est une bonne situation, une bonne nouvelle que le marché de l'existant se soit bien stabilisé depuis maintenant plus d'un an, et surtout sans les effets fiscaux transitoires, ou en tout cas avec ceux qui continuent à exister aujourd'hui et qui sont prévus comme être persistants. Donc ça, c'est vraiment bien. Sur les maisons, il est vrai que les prix sont toujours en stagnation ou au même niveau, ce qui est une bonne nouvelle. Néanmoins, on se rend compte que la baisse des frais d'enregistrement qui avait été réduite de moitié il y a encore jusqu'à 6 mois a eu un effet positif sur les ventes de grosses maisons, enfin de maisons, et qu'aujourd'hui on pourrait s'attendre peut-être à un effet un peu sur le volume, mais les prix sont toujours bien stables.
Donc on a un marché de l'ancien qui s'est stabilisé, qui a trouvé son équilibre, je pense que c'est la bonne manière de le dire.
Oui.
Un marché du neuf qui le trouve absolument pas, qui a toujours énormément de mal à reprendre. De votre côté, Soufiane, vous avez des informations à ce sujet-là? Comment ça se passe? Il y a de l'intérêt? Il y a du retour?
Je peux confirmer la description que Pierre a donnée. Donc je dirais il y a trois éléments. Forte demande sur le marché de la location. C'est ce qui génère le plus de demandes sur le site, beaucoup d'intérêt. Donc ça reste vraiment très très important. En deuxième vient le marché de l'ancien, qui reste très très résilient. Donc ça aussi, et je pense que c'est une bonne nouvelle, la demande est là, l'offre aussi est là. Et puis vous avez le marché du neuf, qui, il est vrai, le quatrième trimestre a été vraiment en deçà et très très faible, beaucoup plus faible que ce que je ne m'attendais. Mais là aussi, avec quelques disparités. Donc ce qu'on remarque, il y a quand même un problème au-delà des challenges structurels par rapport à la capacité d'emprunt, etc. Mais il y a aussi un problème de confiance. C'est-à-dire que les projets qui vont être des projets qui vont être livrés dans 2-3 ans, les acheteurs vont être beaucoup plus précautionneux. Donc il y a quand même un problème de confiance. Les projets qui vont générer un peu plus de retours et plus de demandes vont être des projets qui vont déjà être entamés en termes de construction, ou en tout cas l'acheteur va pouvoir se projeter peut-être plus facilement. Donc il y a aussi ce challenge pour faire revenir la confiance dans le marché de la VFA. Mais globalement, les tendances sont vraiment celles qu'on a décrites. Un marché de l'ancien qui reste aujourd'hui très résilient, en espérant que cela se continue. Par contre, un marché du neuf aujourd'hui, sur l'année, je pense, 2025, on a eu plus ou moins 1000 transactions par rapport à, historiquement, on faisait 1500, 2000, voire plus. L'ancien, plus, on est à plus, même oui. plus. 4500 sur l'ancien, sur l'année, bon, on revient à des historiques d'avant-crise.
Oui.
Sur le neuf, quand même, c'est un écart qui est très, très important. Et si on veut construire 6000 logements par an, on est quand même très, très, très loin de là où on devrait être. Et ce manque aujourd'hui va créer une pénurie structurelle demain qui va être de plus en plus difficile à combler. Ça, c'est quand même un gros challenge.
Bah, j'ai repris les chiffres officiels de nombre de ventes. Et donc, ça fait 3 ans qu'on produit seulement 28% de logements neufs en comparaison à ce qu'on produisait de 2017 à 2021.
Il faut le souligner, on construisait déjà pas assez de logements à l'époque.
Oui, alors il faut peut-être nuancer légèrement, parce qu'il y a une partie des appartements neufs qui ont été vendus, mais pas sous forme de VEFA, sous forme d'un contrat de vente classique. Donc on a peut-être une petite proportion supplémentaire de logements neufs qui n'ont pas fait l'objet d'une VEFA, et qu'il faudrait ajouter au total. Ça ne change pas le constat global, je suis d'accord, et c'est un vrai problème. Mais moi, au-delà de ce que disait Soufiane, c'est pas simplement un problème de confiance. C'est aussi un problème de prix. Hein, on voit qu'on a un écart parfois abyssal pour un même type de logement entre un bien ancien et un bien neuf. Et cet écart n'est pas tenable pour un acheteur, évidemment.
Mmh. Bah, on en parlait dans cette émission il y a quelques mois, ou même plus. Je pense qu'on était autour d'une bonne année en arrière. On pouvait trouver des biens qui avaient 4-5 ans, qui était aussi une très bonne performance, qui était quasiment 20 à 30% moins cher. Donc effectivement, si moi je suis acheteur, je ne vais pas aller me tourner vers un projet d'ailleurs où je vais devoir attendre, payer un autre logement entre-temps, me mettre en crédit relais. Et puis n'oublions pas, il y a quand même eu énormément de faillites et plein de propriétaires qui malheureusement sont restés les mains dans les poches avec un terrain à moitié bâti, une maison à moitié bâtie. Et aujourd'hui, c'est la galère, quoi. Donc ça s'explique.
Et ce différentiel de prix, dans certains cas, existe toujours. Et nous, on le voit. Donc, nos clients sont des clients qui auraient pu potentiellement acheter dans du neuf ou dans une VEFA qui a déjà été bien commencée. Mais quand ils voient qu'ils peuvent acheter un bien extrêmement récent, qu'ils peuvent visiter, la cuisine est déjà présente et que le prix est inférieur... Bah, ils ne se posent pas la question. Ils vont en fait conduire leurs recherches vers de l'existant récent. Et je pense que c'est d'ailleurs sincèrement un référentiel de prix, l'existant très récent, que les promoteurs devraient prendre en ligne de mire pour voir comment s'ajuster, parce que c'est un élément central, mais aussi évidemment avec, et il faut se rendre compte, les contraintes que représente la VEFA. La VEFA, c'est une attente, une vraie VEFA, c'est une attente de plus de 2 ans de son logement qui représente, au-delà de l'attente, un coût, hein, puisqu'il faut préfinancer. On est aussi dans une société où on veut de l'instantanéité, les gens, autant notre génération, même la mienne, je pense, était assez capable d'attendre 2 ans et demi un logement. Aujourd'hui, les plus jeunes, les trentenaires, qui sont les primo-accédants, ont moins ce réflexe. Et donc, le modèle actuel est mis à rude épreuve. Je sais très bien que beaucoup de promoteurs aimeraient pouvoir aussi construire en ayant des financements des banques. Mais les banques ne sont pas en capacité, avec les réglementations actuelles, à leur fournir aussi du financement à taux correct pour que l'opération sorte en fin de projet à un niveau de prix qui soit absorbable. Donc on est dans une situation qui est aussi extrêmement compliquée de par le changement structurel qui est lié à cette explosion des taux qu'il faut rappeler est là depuis 2022 et qui a complètement changé le marché. Et sur le neuf, je veux insister, il y a quand même une chose qui a tué le neuf, c'est l'apport des 20% pour les investisseurs. Et ça, c'est un élément qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs vont dans d'autres produits, notamment financiers, où il n'y a aucune barrière à l'entrée. Et quand vous commencez à épargner, que vous les épargnez tous les mois 1000 euros si vous avez un bon salaire, ce qui est souvent le cas au Luxembourg, beaucoup de gens ont une capacité d'épargne. Mais néanmoins, l'investissement locatif immobilier luxembourgeoise n'est plus une option parce qu'il vous faut un apport trop important. Mmh. Et toute la politique de construction du logement s'était construite sur cette méthode de la VEFA qui était financée pratiquement intégralement pour les investisseurs, en tout cas, mais qui représentait souvent 60% des acheteurs des nouveaux projets, par des petits épargnants privés qui, au lieu d'épargner dans un produit d'investissement classique, voire une assurance vie, achetaient un appartement. Et ceux-là ne sont plus là. Et c'est ceux-là qu'il faut aider absolument. Absolument, parce qu'ils aiment en fait, c'est des gens qui sont locaux, qui comprennent l'immobilier luxembourgeois et qui souvent aiment bien le pays. Donc, en fait, ils ont envie d'investir ici. Mais par contre, il faut les aider à pouvoir le faire et lever ces contraintes. Donc, il faut trouver des méthodes pour y arriver et remobiliser ces investisseurs-là. Parce qu'on peut parler des investisseurs institutionnels. Je lis les articles, évidemment, mais il n'y a pas d'investisseurs institutionnels dans l'immobilier résidentiel au Luxembourg. Ça n'existe pas, on est un pays trop petit, il n'y a pas de projet avec assez d'unités pour qu'il y ait des économies d'échelle, pour que les investisseurs institutionnels viennent au Luxembourg. Et en plus, le rendement brut est trop faible. Donc, il faut travailler avec ce qu'on a de disponible. Ce qui est disponible, c'est des épargnants locaux qui travaillent ici, qui ont une capacité potentielle à acheter du logement. Mais par contre, il faut lever cette barrière à l'entrée.
Bah, y a plusieurs barrières. Il y a les 20%, il y a les taux aujourd'hui. Et puis les prix qui restent élevés, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes initiées ou non qui vont se dire, quand ils voient le logement en chiffres, plus 2% sur les appartements neufs, alors que ça ne se vend pas. Comment on explique ça?
Alors déjà, on explique en partie par la faiblesse du marché, la petite taille du marché qui fait que les effets peuvent être vraiment amplifiés. Alors qu'on a finalement peu de transactions, on parle de 149 transactions quand même, mmh, seulement, au quatrième trimestre 2025. Ça dépend vraiment aussi des évolutions projet par projet. Mais moi, je partage complètement l'avis de Pierre sur le constat sur le problème investisseur. C'est un problème majeur sur lequel il faut raisonner. Je partage son avis sur le ticket d'entrée qui est un problème majeur. Ça, c'est évident. Et aussi sur le fait que la hausse des taux a changé quand même la donne du côté investisseur. Avant, la perspective de plus-value était aussi une motivation importante. Aujourd'hui, évidemment, elle ne peut plus s'élever au même niveau que ce qu'on avait il y a quelques années. Donc voilà, côté investisseur, ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments qui, mis bout à bout, peuvent décourager. On a un ticket d'entrée élevé, on a des taux élevés, donc un coût de financement élevé. On a une perspective de plus-value qui est au minimum, disons, incertaine. Et on a des rendements locatifs bruts qui restent relativement modestes, mais ça, c'est pas une nouveauté. Là où vraiment il y a un coup à jouer, c'est sur le rendement locatif en réalité. Parce que ce qui a manqué dans cette phase, c'est probablement une baisse plus significative de prix. Jusqu'ici, les développeurs nous disaient on ne peut pas baisser vraiment les prix parce qu'on a une contrainte liée à l'achat du foncier. On a acheté du foncier très cher. Par définition, on est obligé de sortir des logements à des coûts élevés. Bon, ça c'est quelque chose qu'on entendait, qui était justifié. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui sont commercialisés qui ne viennent pas de foncier qui a été acheté en 2022 ou qui ont été achetés en 2020, mais qui a plutôt été acheté en 2024, peut-être même 2025. Donc à des tarifs qui avaient déjà été ajustés. Ce que nous, on a montré dans l'Observatoire de l'Habitat, c'est que les prix des terrains ont en moyenne baissé de 20%. On a eu beaucoup de transactions de personne morale à personne morale. Donc on a eu probablement pas mal de transactions qui venaient de promoteurs qui ont dû se séparer d'une partie de leur foncier. Voilà, des opportunités foncières, et on voit, et ça c'est très intéressant, on voit au quatrième trimestre 2025 qu'on a un certain nombre des projets là dont je parlais, des 149, qui sont des projets commercialisés récemment, avec des niveaux de prix qui sont quand même nettement ajustés par rapport à ce qu'on a pu observer avant. Et là, on a eu des ventes qui se sont faites avec une vitesse qui est probablement plus intéressante. Voilà, donc on a à mon avis un levier, c'est le levier prix, pour rétablir du rendement aussi du côté investisseur, parce que comme on le disait, hein, les loyers continuent d'augmenter, donc le rendement il peut être là si le pricing est bon côté investisseur.
Et le rendement à long terme est quand même assez bon, on est quand même sur un investissement de long terme, avec des loyers qui vont augmenter d'année en année, même si c'est que 3%, c'est, ou 2%, c'est une augmentation qui est presque certaine. Et en réalité, chez Nexvia, vous avez un outil en ligne que vous pouvez utiliser pour regarder le rendement réel d'un investissement locatif. Hein, vous pouvez faire une simulation quand vous avez 20% d'apport, le minimum exigé aujourd'hui par la CSSF. Et vous allez voir que même avec une plus-value réduite, une augmentation, disons, de 2 ou à 3% par an, bah, le rendement réel que vous allez toucher sur une période de 10 ans annuelle, il est souvent supérieur à 6, voire 7%. Donc, ce qui est quand même quelque chose, quand on met tout bout à bout, assez intéressant. Et notamment aussi avec les incitatifs fiscaux. Quand vous avez encore les amortissements accélérés, c'est aujourd'hui 5% sur 5 ans. Donc, il y a quand même de l'intérêt. Le problème, c'est la barrière à l'entrée. Donc, il y a peut-être des choses à innover. Il y a peut-être... moi, quand je vois que... on essaye de tout faire au niveau... il faut peut-être s'appuyer sur ces épargnants privés et peut-être que leur co-investir avec eux, même en tant qu'État, pour donner à être copropriétaire à 20% et que ce soit l'État qui finance les 20% d'apport, bah, c'est peut-être une solution parce que ça a un effet hyper multiplicateur. Parce qu'en fait, vous appuyez sur des privés qui, eux, ont la capacité d'endettement sur 20 ans pour financer l'acquisition d'un bien locatif qu'ils vont mettre sur le marché, augmenter l'offre. Et en tant qu'État, vous restez propriétaire de 20% du bien. Et ça, c'est quelque chose que qu'on pourrait potentiellement essayer de structurer. On peut innover peut-être dans cette matière. Il y a 30 milliards dans le fonds de compensation des pensions luxembourgeoises. Mmh. En fait, le problème de l'immobilier, c'est un problème qui va se déporter vers les pensions derrière. Donc, à un moment donné, est-ce que l'argent disponible dans notre pays ne devrait aussi pas être utilisé pour essayer de stimuler l'offre et faire que demain, le parc immobilier, notamment locatif, soit plus grand et qu'il régule par le marché les prix, puisque en fait, c'est bien ça qu'on veut.
Alors, je sais que dans le monde de l'immobilier, les aides gouvernementales sont généralement bien vues, mais le dernier paquet semble avoir confirmé ce que disent les chercheurs depuis longtemps, qu'elles contribuent donc à créer des effets d'aubaine et donc des augmentations de prix, comme on l'a vu encore une fois sur le dernier paquet logement. Et c'est un peu la dernière chose dont on a besoin au Luxembourg, non ? C'est-à-dire que paquet logement, augmentation de prix, puis on se retrouve encore une fois dans le creux de la vague.
Évidemment, on est sur un marché où le problème, c'est finalement même pas. La conjoncture a fait que le problème était la demande en logement. Mais le problème majeur du Luxembourg, c'est l'offre. Et donc, c'est des mesures qui visent l'offre de logement qui vont le mieux débloquer la situation. Si on fait que subventionner la demande, c'est ce qu'on a dit depuis très longtemps, alors on continue de creuser le problème et on voit bien que ça n'a pas eu un effet majeur sur la construction, qui est quand même le nerf de la guerre. Mmh. L'idée de base, c'est toujours la même, hein. C'est cette vieille idée que subventionner la demande, en particulier des investisseurs, c'est permettre la construction, parce que ce qui permet la construction, ça, c'est ce qu'on disait, c'est les investisseurs. Donc subventionner la demande, c'est quelque part résoudre le problème de l'offre indirectement. Ça, c'est le présupposé. On voit que ça a du mal à fonctionner dans les faits, et que ce qui va fonctionner, ce sera nécessairement des mesures qui visent à débloquer du foncier et à augmenter l'offre de logement.
Ça résout une partie de l'équation, mais... on reste toujours dans une pénurie structurelle de logements.
C'est ça.
Ça reste booster la demande, je pense que c'est bien, il faut le faire, il faut continuer à le faire. Sur les investisseurs, il y a aussi toujours une connotation un peu négative. Lorsqu'on parle d'investisseurs, c'est un peu dommage. Et le feedback de Pierre est très juste, c'est ce que aussi nous disent beaucoup de professionnels. C'est que les investisseurs, c'est en général des gens qui sont déjà primo-accédants, qui veulent investir leur épargne et acheter un studio, le garder pour leurs enfants. Donc il y a une connotation négative qui devrait être, ne devrait plus exister. Mais on en revient au même problème qu'on a discuté maintes et maintes fois ici, je pense. C'est un problème structurel qui est lié à l'offre. Ajuster les prix, ça reste toujours compliqué et chaque développeur ou promoteur a sa situation particulière. Entre comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il s'est financé, sa trésorerie, ses challenges opérationnels, les autorisations à obtenir. Donc il y a beaucoup, beaucoup de problématiques. C'est difficile d'avoir une solution applicable à tous. Et donc on en revient à un cercle qui n'est pas encore vertueux, qui est compliqué, où il y a ces blocages qui persistent.
Mais je vais vous soumettre une question qu'on voit souvent passer et qui relève de la logique très basique, on est d'accord, mais voilà, est-ce que c'est mieux de vendre moins cher ou est-ce que c'est mieux de rien vendre et de faire faillite, quoi ?
Mais il y a une chose qui serait important d'ajouter, c'est que c'est pas qu'une question entre acheteurs, promoteurs. Il y a aussi des banques qui ont financé des promoteurs. Et on ne peut pas mettre tout le monde par terre, en fait. Malheureusement, je pense qu'on est... le maintien... En fait, on est quand même pris aussi avec, il me semble, un maintien nécessaire d'un certain niveau de prix au Luxembourg. Et ça, c'est une réalité financière dans laquelle on s'est mise parce que ça fait des années qu'on a... Que les prix avaient augmenté beaucoup que l'économie des promotions s'est faite de cette manière et qui a été autorisée. Mais donc, il y a cette contrainte aussi.
Et concrètement, ce que vous dites, c'est que si on ne maintient pas un certain niveau de prix, on va avoir un autre problème.
Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui réduire les prix de moitié. C'est illusoire.
Alors, c'était pas ce que je suggérais, hein, au cas où.
Mais freiner la hausse de prix, ça, c'est tout à fait envisageable. Et on a un levier majeur, quand même, qui est une composante essentielle du prix du neuf, c'est le foncier. Et le foncier, c'est vraiment la base de toutes les réflexions, je pense. Si on ne raisonne pas en termes d'accès au foncier, de baisse de prix du foncier, alors oui, c'est illusoire de penser qu'on va avoir une baisse significative des prix des appartements neufs. Moi, ce que je vois, c'est que les prix du foncier ont baissé. Ils ont baissé. Donc, les projets qui doivent sortir aujourd'hui, ils sont nécessairement moins chers que ceux qui sont sortis en plein cœur de la crise.
Et ils le sont, on en voit déjà.
Ils le sont. Et c'est tout à fait logique. Et à des niveaux de prix qui sont de l'ordre de, je ne sais pas, 15 à 20% moindres que ce qu'on avait au cœur de la crise, alors je suis persuadé qu'on a des acheteurs.
Oui. Alors attention, plusieurs problématiques là. Non seulement la situation actuelle qui, on anticipe de nouvelles hausses de taux, même s'il n'y a rien de confirmé, même si Christine Lagarde dit pour l'instant qu'il y a d'autres manières de contrôler la situation. Mais voilà, on anticipe des hausses de taux, on anticipe des hausses de prix de la construction. Donc imaginons qu'on se repose maintenant sur le prix plus bas du foncier, mais que la construction, les prix de la construction augmentent et les hausses de taux, enfin qu'il y a une hausse de taux importante, on va se retrouver dans la même situation très très vite.
Oui. Je pense qu'il y a des pressions actuelles qui vont en plus, qui pourraient ne pas aller dans le bon sens. Mmh. Et on est clair. Mais je pense qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas affronter. Il y a un problème court terme à résoudre, c'est l'écoulement du stock existant de projets lancés en cours. Mmh. Et là, je pense qu'il est bon de freiner les prix. Mais on ne peut pas demander à ces intervenants, et c'est impossible que ce soit vendu 30% moins cher que les prix actuels. Et ça, il faut trouver des solutions, et pour moi, ça doit passer par la stimulation de la demande, parce que c'est à peu près que la seule chose sur laquelle on peut vraiment, à mon avis, aider. À long terme, à moyen et long terme, je suis entièrement d'accord, il faut reprendre la main, il faut avoir le courage politique d'augmenter l'offre. Et l'État contrôle certaines choses. Et il faut agir sur ce qu'en tant que personne, on peut contrôler. Moi-même, j'agis sur ce que je peux contrôler. Il y a plein de choses que je ne peux pas contrôler, je laisse filer. Ou j'ai mis un cadre, mais finalement, les gens ne le respectent pas. Comme un certain cadre qui a pu être mis au Luxembourg. Mais par contre, quand je suis propriétaire à Luxembourg-Ville de 30% des terrains qui sont constructibles à vocation résidentielle, je construis. Et je prends le courage de construire et de faire des logements abordables, même si en fait, des logements abordables au Luxembourg, beaucoup plus. Mais c'est la nouvelle, c'est le nouveau Luxembourg. Si vous voulez autant de confort que vous en avez eu pendant les 30 dernières années, il va sûrement falloir passer par là. Et je pense que c'est le courage politique qu'il faudrait avoir. Et de la même manière, quand on dit, on veut pas l'impôt foncier. Ok, pas de problème, on veut pas l'impôt foncier. Mais pourquoi au moins on n'oblige pas les gens qui ont hérité de terrains qui leur coûtait zéro à construire, l'obligation de construire. Et on n'a qu'à mettre un bureau de project management pour que ces gens-là qui peuvent se mettre derrière « mais moi, je ne sais pas comment faire », soient aidés par des vrais professionnels qui soient embauchés peut-être par l'État auprès de promoteurs. Je pense qu'il y a, des gens qui doivent probablement seraient très contents de travailler pour l'État. Et que ces gens qui ont des gros terrains même à Luxembourg, à Luxembourg-Ville, où il y a toutes les voiries, soit obligé de construire. Ça, c'est augmenter l'offre. Mais il faut le courage politique pour le faire. Ça prendra du temps, ça ne va pas résoudre le problème en un an, ça c'est évident. Mais en fait, si on on ne l'engage pas réellement, courageusement, maintenant, la crise, permacrise, sera en effet toujours là dans 10-15 ans.
Oui, on en parle depuis très longtemps de ces mesures. Mais moi, je dissocie aussi deux choses. On a le déblocage du foncier public, qu'on entend comme une arlésienne, quelque chose qui va vraiment changer la situation, mais je nuancerai pour deux raisons. D'abord, mettons de côté le cas Luxembourg-Ville, mais au Luxembourg en général, les acteurs publics, ils détiennent moins de 20% du total des terrains constructibles. Donc, ça serait une manière d'activer à court terme du foncier, mais ça ne va pas être ce qui va faire vraiment la différence à très long terme. Et surtout, débloquer du foncier public aujourd'hui, c'est finalement c'est écouler des réserves qui sont, par définition, pas infinies. Le foncier public, c'est une petite fraction du foncier total disponible. Et si on l'écoule complètement, bah, il ne restera plus rien. Et acheter du terrain aujourd'hui pour l'État, ce serait contribuer à la hausse des prix. Parce que ça serait un acheteur parmi d'autres acheteurs potentiels. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, je suis d'accord avec l'obligation de construire comme un outil qui peut être tout à fait activé. Et évidemment, la hausse de la taxe foncière, spécifiquement pour les terrains constructibles non construits. Ça me paraît être des pistes qui aujourd'hui ne sont pas délirantes, qui sont en cours de réflexion ou même de processus législatif. Et on en parle depuis très longtemps. Mais ça me paraît absolument indispensable, puisque le problème, on l'a identifié, c'est l'accès au foncier.
Alors, on a parlé du dernier paquet logement. On sait aujourd'hui qu'il y a un nouveau paquet logement en préparation au gouvernement. Le ministre du Logement me disait au début du mois qu'il y aurait bien des aides, mais que tout le monde allait devoir contribuer. Que peut-il bien vouloir dire quand il dit que tout le monde va devoir contribuer? Alors, il m'a parlé des banques, il m'a parlé des promoteurs, mais par quels moyens?
On n'est pas le porte-parole du ministre. Je pense qu'on est bien mal placé pour donner...
Vous avez des idées. Vous avez des idées.
Oui, on a déjà exposé un peu, je pense, tous ensemble, les idées qui nous paraissent les plus pertinentes. C'est-à-dire, avant tout, s'occuper du problème structurel lié à l'offre. Et là, je suis d'accord avec ce que disait Soufiane quand même. Et je pense que Pierre en a parlé aussi. C'est cette idée qu'à court terme, il faut quand même s'occuper de la demande parce que c'est un point conjoncturel important. On a aussi des incertitudes dont vous parliez tout à l'heure sur le futur, notamment en termes d'évolution des coûts et d'évolution des taux. Donc voilà, il y a un problème conjoncturel qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais le problème principal, ça reste un problème structurel lié à l'offre. Et c'est ce point-là qui doit être absolument au centre des débats politiques.
Alors enfin, en lien avec toutes nos discussions d'aujourd'hui, Soufiane, je vais me tourner vers vous. Vous devez déjà avoir une image assez concrète de l'évolution du marché au premier trimestre 2026, vu qu'on est au bout. Vos chiffres ne devraient d'ailleurs pas tarder à être communiqués. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire aujourd'hui ou absolument pas?
Si, au niveau des chiffres, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'ils vont un peu refléter les tendances qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc la première, c'est que sur le marché de la location, on reste quand même sur des niveaux qui sont plus ou moins alignés à ce qu'on a vu les précédents trimestres. Donc comme je l'évoquais précédemment, on est sur une moyenne sur le premier trimestre pour une maison de la 3 200 €, globalement aligné avec le trimestre précédent, donc T4 2025. Pour un appartement, on est sur 1 869 € pour être précis. Donc légère augmentation par rapport au trimestre précédent. Donc un marché locatif qui est toujours, je dirais, très très tendu. Après, sur globalement les prix, que ce soit l'ancien ou le neuf, ce qu'on remarque sur le premier trimestre, c'est une légère baisse qui est probablement liée au fait que la demande s'est un petit peu ralentie. Ce qui est aussi normal après 2-3 trimestres extrêmement... je dirais extrêmement actif et dynamique. Donc pour moi, on est sur une stabilisation globalement sur le premier trimestre. Un marché de l'ancien qui reste plutôt résilient. Si les prix sont corrects, en général, les biens partent relativement vite et le temps de ces biens, en tout cas le temps pendant lequel ils restent sur le site est assez court. Par contre, sur le neuf, là, ça reste un peu plus compliqué. On a une demande qui est beaucoup moins forte. On a des retours aussi qui ont ralenti sur le premier trimestre. Et ça, on le remarque de manière assez importante sur T1. Mais globalement, c'est une tendance qui reflète ce qu'on est en train de voir, en tout cas ce qu'on a vu sur les chiffres qui ont été publiés récemment.
Vous savez, donc, on a une année 2026 qui continue un petit peu comme la fin de l'année 2025. Donc, sur le 9, il y a, comme on a parlé du fait qu'il y avait des projets qui étaient affichés maintenant à des prix un peu plus bas, on aurait pu s'attendre éventuellement à un petit mouvement là-dessus, mais...
Ça dépend des projets, en fait. Mm-hmm. Vraiment, c'est les projets... on le voit, en fait, les projets qui sont... même sur les photos, quand vous avez quelques photos où on voit le terrain, on voit le rez-de-chaussée, premier étage, on voit que la construction a commencé, c'est des projets qui vont générer un peu plus d'intérêt par rapport à des projets où effectivement, là, vous avez une maquette et la livraison se fait dans 2-3 ans. Les acheteurs sont extrêmement, extrêmement précautionneux. Vraiment, et derrière, effectivement, certains développeurs font des efforts par rapport au prix. C'est plus difficile pour d'autres. Certains vont, par exemple, faire des offres spéciales, offrir une cuisine, faire un geste sur le parking, par exemple. Mais il y a ce côté lié à la capacité d'emprunt, ce côté qui est lié au taux. Donc ça, c'est la première chose. Les investisseurs qui ne sont quasiment plus là. Donc ça, c'est le deuxième élément. Qui vient aussi impacter la très faible, en tout cas la demande qui est très faible aujourd'hui, puis le facteur confiance qui est aussi entre en jeu et qui fait que les gens sont quand même extrêmement précautionneux aujourd'hui.
Mmh. Donc le peu de personnes qui s'intéressent au neuf aujourd'hui restent des personnes qui achètent pour eux, pour habiter dans le logement.
Quasiment que ça aujourd'hui.
Mmh.
Quasiment que ça. Très 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 peu d'investisseurs.
Alors j'ai envie de vous poser la question que je vous pose assez souvent, mais je pense que la réponse sera pas forcément très positive. L'année 2026, bon, on est déjà au bout du mois de mars. Vous la voyez comment ? Sortez les boules de cristal.
À périmètre constant, je dirais que si la guerre en Iran n'a pas plus d'impact à court terme, moyen terme, bah, je pense que le secteur de l'existant, en tout cas, va être très résilient, puisque les propriétaires occupants s'intéressent à ce segment en priorité. Et là, les prix se sont corrigés, hein, donc il y a maintenant plus de 18 mois. Je pense qu'il pourrait y avoir... un regain un petit peu pour la VEFA, si on a un nouveau paquet fiscal qui arrive, qui peut aider à soutenir la demande, peut-être des innovations pour aider toucher ces épargnants, vraiment toucher cette partie de la population qui sont les vrais investisseurs derrière la VEFA luxembourgeoise. Mais je pense qu'aussi, ce paquet, il faudrait qu'il arrive relativement vite. On est déjà en avril. Les gens ont besoin de le comprendre pour prendre une décision d'achat. Donc là, ça fait maintenant 6 mois qu'il n'y a plus rien. Si on veut que ça ait déjà des effets sur 2026, il va falloir qu'on ait une clarification de ce qui est proposé, en tout cas aux investisseurs, notamment qui sont ceux dont on a le plus besoin pour résoudre le problème actuel.
Je pense que c'est important ce que vous avez souligné, c'est qu'effectivement, quand des aides sont annoncées, ça prend un certain moment jusqu'à ce que ça se sache.
Oui.
Parce que tout le monde ne s'informe pas tous les jours.
Bien sûr.
Le temps qu'on comprenne et le temps qu'on commence à faire les démarches. Parce qu'effectivement, là, on est déjà au mois d'avril, ça peut se prolonger sur 3 mois jusqu'à ce que les gens commencent à se mobiliser, quoi.
Et l'immobilier reste un temps long. Donc, vous avez l'information fiscale, vous faites vos estimations financières et ensuite, vous allez chercher le bien. Et quand vous allez chercher le bien, ce n'est pas une décision qui se prend en une semaine. Vous allez en regarder plusieurs, vous allez potentiellement négocier, vous allez vous intéresser à la localisation, c'est un investissement important. Donc, ouais. Attention, il y a un lag, donc il faut agir quand même relativement vite.
Pour votre part, Julien, Soufiane, année 2026 ?
Peut-être, si on prend un peu de recul, 2025, globalement, on a clôturé avec 10 000 transactions, tout inclus. Appartements, terrains, maisons, plus 20% par rapport à 2024, 8 400, et on avait fait 6 000 transactions en 2023. Donc il y a une progression en 2025, mais comme mentionné dans le rapport, cette reprise, elle n'est pas homogène. Donc clairement, le segment du neuf qui est en grande difficulté, Et ça, c'est la grande interrogation. C'est vrai que c'est assez difficile de savoir comment ça va évoluer. Maintenant, le but, c'est d'être quand même positif, optimiste. Je pense qu'on a réussi à quand même clairement articuler le problème. On en discute depuis longtemps et tout le monde sait plus ou moins de manière très claire quelles sont les zones de pression, quels sont les challenges, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en sortir. Maintenant, la grande question, c'est en tout cas, je pense que tout le monde est prêt à collaborer parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que cette situation perdure en termes de compétitivité, être attractif pour les talents. Même nous, par exemple, tant qu'employeur, attirer des gens, première chose qu'ils vont voir, ben, ça coûte combien une location au Luxembourg? Si je paye 1 800 euros pour un appartement, c'est compliqué. Donc, quand même des problèmes qui peuvent être difficilement réversibles plus tard. Mais globalement, je reste confiant. J'espère qu'on mettra en place les solutions qui vont avoir un impact. Ça va être important. Mais bon, ça reste globalement positif. Si on regarde plus ou moins l'image globale sur 2025, trimestre par trimestre, il y a quand même des nuances à apporter. Le segment du 9 en T4 a été quand même fortement touché. Mais voilà, c'est difficile sur le neuf de savoir comment ça va évoluer, mais je pense voilà, on reste positif, on reste optimiste. Les fondamentaux quand même du Luxembourg sont toujours solides, mais il faut pas que ça devienne, que ça reste comme ça, parce que j'ai vraiment peur que ça soit des choses qui structurellement vont être encore plus difficiles à changer. Et comme c'est dit, l'immobilier c'est quand même long, c'est pas quelque chose en un claquement de doigts. Vous pouvez sortir des centaines de logements du jour au lendemain.
Tout comme les réformes qui sont annoncées, hein, parce qu'on parle de réforme de l'impôt foncier qui ne fera pas une énorme différence, mais la réforme, enfin, si on parle de tout ce qui est logement vacant et tout ce qui est terrain constructible, etc., là, ça peut avoir un vrai effet, mais même là, il y a tout un décalage, ça va prendre des années pour qu'il y ait vraiment des effets. Donc, effectivement, je pense qu'entre une... Autrement, enfin, une intervention étatique, je pense que c'est la seule chose qui peut
débloquer le marché.
Oui.
Moi, j'ai exactement le même avis que mes camarades sur plusieurs points. Et pour synthétiser, c'est vrai que d'abord, il faut dire une chose importante, c'est qu'on peut raisonner qu'en supposant que la trajectoire de taux d'intérêt et les évolutions des coûts ne vont pas beaucoup bouger de ce qu'elles sont tout de suite. Donc partons de ce principe-là, parce que les incertitudes font que ça aussi, ça peut avoir des effets considérables, qu'on n'est absolument pas capable aujourd'hui ni de quantifier, ni de maîtriser. Mais partons du principe qu'on reste sur les fondamentaux actuels, ou en tout cas sur la conjoncture actuelle. La bonne nouvelle, c'est que sur l'ancien, ce qui a relancé l'activité, c'est d'abord la baisse de prix, et ensuite la stabilité. Vraiment, je pense que les acheteurs ont besoin de cette stabilité. On a eu une certaine stabilisation des taux, et on a une stabilisation des prix, qui aujourd'hui nous envoie un signal assez positif sur quand même comment le marché se structure et où on va. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'en 2026, je suis assez optimiste sur l'ancien, parce qu'on a cette relative stabilité, donc une capacité des acheteurs à se projeter, à savoir où ils vont lorsqu'ils achètent. Donc ça, c'est important. Par contre, sur le neuf, on a le gros, gros problème du prix. Et ça, c'est à mon avis un signal qu'il va falloir envoyer. C'est vraiment sur les nouveaux projets, il faut qu'on voit une baisse significative de prix pour relancer ce marché et permettre aux investisseurs et aux accédants de comparer mieux, ou en tout cas d'avoir la volonté d'aller sur ce marché-là quand ils comparent les prix avec l'existant. Sinon, ça ne sera pas possible en fait. On ne va pas pouvoir acheter des biens neufs 30% plus cher qu'un bien récent avec les mêmes performances énergétiques. Ça ne me paraît pas envisageable.
Et il faut le préciser, il faut que le Luxembourg construise. C'est impératif.
Oui. Voilà. Et ça, c'est un très très gros souci qu'on observe depuis le début. On en parle depuis le lancement de cette crise. C'est que cette crise conjoncturelle, elle va avoir des effets structurels qu'on n'est pas capable de maîtriser non plus. On l'a plusieurs fois dit, on a déjà un déficit de construction considérable. Là, il s'est accru et il est clair que ça fait 3 ans déjà qu'on a un manque de logements considérable. Et malheureusement... Quand le marché repartira, s'il repart assez vite, ce déficit, on va l'encaisser.
Oui, surtout qu'on parle de plus en plus dans la sphère de la construction d'une fuite de la main-d'œuvre. Donc ça sera un problème pour demain. On va en rester là, je pense. Mais en tout cas, voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Julien, Pierre, Clément, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir en studio. À nos auditeurs, je vous retrouve pour une nouvelle émission à la fin du mois d'avril. Bonne Pâques à tous.
Merci Gaël.
Merci. Gaël.